Mira. Tu vas sentir quelque chose là, tu loues. C'est ce côté qu'il faut regarder.
À l'œuvre. Comment se crée une œuvre d'art, une pièce de théâtre ou de danse? Dans cette chronique, des artistes ouvrent les portes de leur atelier et de leur univers. Aujourd'hui, rencontre avec la musicienne Soizic Lebras au théâtre Francine Vasse à Nantes.
J'ai commencé par faire une formation au conservatoire, comme beaucoup d'enfants. J'ai demandé à faire du piano, on ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas de professeur. Alors après, on m'a dit, bon, il y a un professeur de violoncelle qui arrive, j'habitais à la campagne. Et du coup, j'ai dit, ok, va pour le violoncelle, j'avais 7 ans, 7 ans et demi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'étais encouragée par mes parents, notamment ma maman, donc voilà. Et à un moment, j'ai demandé à mes parents d'aller à l'internat et pour se faire de rentrer dans une classe horaire aménagée. Donc c'est des années de formation classique de musicienne, d'instrumentiste. J'apprends à jouer du violoncelle, j'apprends toutes les pratiques musicales de référence, l'orchestre, la musique de chambre, le déchiffrage, le solfège. Et puis j'ai un professeur aussi qui est assez dingue finalement dans ce conservatoire, qui est un professeur hongrois, qui me fait très très vite jouer dans l'orchestre de l'opéra de la ville. J'ai fait mes études à Besançon. Et donc aussi, j'ai rapidement une pratique, on va dire, professionnelle de la musique, classique. Et puis vint le moment où j'ai le bac en poche et je dois choisir ma voie professionnelle. Et là, ça devient très très difficile, parce que je suis tiraillée, j'aime beaucoup la musique, mais j'ai toujours le sentiment que c'est plus un prétexte à vivre autre chose. Et je me sens un petit peu en décalage par rapport aux attentes professionnelles que je perçois du musicien classique. Mais je fais quand même le choix de me dire, bon allez, je me donne cette possibilité. Donc à 18 ans, je dis, bon ben voilà, je voudrais faire de la musique. Et je vais à Paris. Et là, je suis les conseils aussi de mon professeur de violoncelle de Besançon, en gros, qui me dit, va voir un tel, et ça, c'est comme ça, tout ça. Je fais ça, et ça se passe pas très bien. Au bout de 4 ans, 4-5 ans, je me dis, non, en fait, ça va pas du tout. J'ai la chance, entre guillemets, de me retrouver à Nantes. Et je me dis, bon, ben voilà, maintenant que je suis à Nantes, je vais reprendre des études. Et du coup, je reprends des études d'histoire. Voilà. Je fais ça tranquillement, tout en continuant à faire de la musique, mais différemment. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, à peu près, on est dans les années 2000, je découvre l'improvisation par le biais d'une contrebassiste qui est assez connue, qui s'appelle Joëlle Léandre, qui a maintenant plus de 60 ans. Et qui, elle, a fait vraiment son chemin là-dedans, c'est une des pionnières qui vient de la musique classique. Et donc, elle est légitime pour les musiciens, les musiciens classiques comme moi, qui cherchent autre chose et qui savent pas vraiment où aller, ni comment sortir de cette espèce de culture. Et là, c'est la révélation, vraiment, pour moi. Son workshop, c'était très simple. On est une dizaine, et puis elle dit, bah, vas-y. Voilà, donc, tu dis, comment ça, j'y vais? Bah oui, vas-y, bah, va sur scène et joue. Bah, j'ai fait ce qu'elle a dit, je me suis retrouvée sur scène et passé le moment, la première seconde, je me souviens, moi, la sensation, c'est qu'en fait, j'avais plus rien dans la tête, quoi. J'étais vide, quoi. J'avais aucune idée, rien. Je pensais le trac aussi, enfin, truc vraiment bien blanc, quoi, la page blanche. Et puis, en fait, c'est très étrange parce que du coup, une fois passé le premier son que tu fabriques sans savoir pourquoi tu le fabriques, t'as juste ton instrument là, tu prends ton archet, tu fais ça. Et ben, ça a été une évidence, quoi. Une espèce de waouh, c'est parti. C'est parti, je pouvais plus m'arrêter. Puis c'était hyper joyeux, en fait. Enfin, il y avait un truc libératoire, quoi. Et du coup, à partir de cette expérience-là, forcément, j'ai cheminé à cet endroit de l'improvisation, qui a été vraiment la porte d'entrée à finalement plein d'expérimentations en tout genre. D'abord avec d'autres musiciens, après avec d'autres artistes, d'autres disciplines. Avec vraiment cette envie et cette curiosité d'explorer et de distendre tous les cadres dans lesquels j'avais évolué jusqu'à présent. Donc ben voilà, ça fait depuis les années 2000, ça fait plus près de 20 ans que je suis là-dedans. C'est un travail de longue haleine parce qu'il y a pas de, on n'a pas de mentor, on n'a pas de, il y a pas de, il y avait pas à cette époque-là, et maintenant il y en a un peu plus, des classes d'impro, ça s'est multiplié, mais c'était vraiment au gré des rencontres, donc dans des espaces très alternatifs, complètement invisibles et inaudibles, et donc ça répondait à plein d'interrogations non formulées, enfin, ça m'a nourri beaucoup. Et après, ben, ça m'a aussi donné la possibilité, je pense, de moi-même être dans des propositions formelles, quoi. En parallèle, je faisais des études d'histoire. Quand j'ai pu relier ces études d'histoire à préoccupations qui étaient les miennes en tant que musicienne, artiste, je les ai reliées. C'est-à-dire à partir de la maîtrise, j'ai commencé à m'intéresser aux pratiques artistiques musicales des amateurs, qu'on appelait les amateurs éclairés à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, j'ai souhaité en fait continuer ça et faire un master et une thèse, toujours sur cet endroit des pratiques musicales amateurs, en essayant d'aller voir un petit peu tout ce qui se faisait dans toutes les classes sociales, c'est-à-dire de ne pas juste être à cet endroit d'une pratique élitiste de la musique. Donc, et ça, c'était pour moi très très important, parce que je me demandais pourquoi j'avais choisi le violoncelle. Pourquoi je faisais du violoncelle, pourquoi je me retrouvais dans des pratiques de référence qui finalement me convenaient pas, parce qu'elles étaient liées à mon instrument, alors que j'avais d'autres envies. Donc j'avais vraiment besoin de tout détricoter. Et si je fais un peu vite, j'en suis arrivée à me dire que j'avais une certaine culture, qui est une culture classique, voilà. Que cette culture classique, elle m'a forgée. Et que tout ça, c'était très, très intense, que ça avait beaucoup de valeur. Et que je savais que j'avais envie de ça, j'avais pas envie de m'éloigner de ça, mais qu'en même temps j'avais envie d'aller quand même ailleurs avec tout ça. Et voilà. Et du coup, ça donne par exemple ce travail que j'ai montré à la Salvas, donc qui est une recomposition de la première suite pour violoncelle seule de Bach. Et là, vraiment, c'est un peu une synthèse de pas mal de choses en fait. C'est une synthèse de ce que je suis. Ce que j'ai été, de mes recherches actuelles aussi sur l'écoute. C'est ce qu'on appelle un concert sous casque. Donc ça veut dire que le public est invité donc, à mettre un casque sur ses oreilles pour entendre et écouter ce qui va avoir lieu sur scène. Donc par contre, c'est quand même du spectacle vivant, il y a quelque chose qui se passe sur scène. Il y a trois violoncellistes et une performeuse danseuse. Ce qu'on fabrique sur scène, c'est le son. C'est le son que le public va avoir dans son casque. Et on fabrique vraiment en direct. Et cette prise de son, elle se fait pas par hasard, c'est-à-dire la danseuse, elle a donc des micros dans les oreilles, et elle se déplace pour aller chercher des éléments sonores de cette suite de Bach. Donc on joue à trois violoncelles, mais pas simultanément, c'est-à-dire il y a des petits décalages, des petits, ce qu'on appelle des phasages en musique, c'est des effets en fait sonores qu'on fabrique sur le moment. Et la danseuse performeuse, elle place ses oreilles de façon à faire entendre, focaliser en fait l'écoute sur certaines choses pendant le temps de la suite de Bach. En fait, l'idée c'est de faire une grande pièce globale, et du coup, moi entre les différents mouvements, je récupère des éléments essentiels de cette suite de Bach, qui me semblent à moi essentiels, et j'en fais des compositions qui sont quand même toujours... Il y a des éléments qui sont composés, c'est toujours la même chose, mais il y a toujours une ouverture possible, c'est-à-dire je me laisse la possibilité de les développer à chaque fois différemment, et de faire les transitions, en fait, entre ces différents mouvements, c'est-à-dire de prendre par l'oreille un peu le public et de l'amener d'un mouvement à l'autre de façon assez sereine et tranquille. Effectivement, les outils technologiques nous permettent maintenant de démultiplier nos sensations aussi, ou d'aller chercher à des endroits que nous, en tant que musiciens, on peut faire, ces expériences qu'on fait, de bouger, d'aller chercher du son et tout ça. On pouvait, jusqu'à présent, moi, je ne pouvais pas le partager avec le public. Ce dispositif de Back to 3D, qui est donc vraiment, c'est un endroit où je partage cette expérience que j'ai acquise, d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs points d'écoute et de pouvoir choisir ce que je veux écouter plus précisément dans une masse sonore donnée. Moi, j'ai pas de lieu spécifique. Je sais pas si j'aimerais en avoir un. Parfois, j'aimerais. Je me dis, ce serait tellement plus confortable d'avoir un lieu. Mais des fois, je me dis, avoir un lieu, c'est aussi rentrer dans une forme de routine, c'est s'attacher à un endroit. Après, j'ai plusieurs natures de travail. J'ai un travail administratif, de gestion, de plein de choses, d'organisation de concerts, d'organisation de résidences. Tous des trucs qui, finalement, sont nécessaires pour que l'activité artistique en elle-même puisse avoir lieu. Ça me prend beaucoup de temps, il me suffit d'un bureau, d'un ordinateur et d'un téléphone. Donc ça, je peux le faire chez moi. Ou bien, j'ai toujours des lieux de vie que j'aime bien, ce qui sont les cafés. J'ai pris l'habitude de faire ça au moment de la thèse, et ça m'est resté. Je travaille aussi beaucoup dans le train, puisque je suis souvent dans le train. Je suis posée, je suis très concentrée. C'est assez étrange, mais voilà, ça marche bien. J'aime bien changer, voilà. J'ai pas un espace de travail, en fait, j'en ai plusieurs, en mouvement, avec du bruit autour, en silence, dehors, dedans. Ça me convient. Après, si j'ai du violoncelle à faire, je partage la chambre de ma fille, on a chacune un espace. Je pousse un peu ses affaires, je mets mon tabouret et puis je me mets à jouer. Ça, c'est pour entretenir, on va dire, si j'ai 2 heures de violoncelle à faire dans la journée, je l'ai fait ici aussi. Si je suis en situation de travailler avec d'autres, ben là, souvent, c'est des espaces dédiés. On va à des endroits, puisqu'on est plus nombreux, donc là, ça peut être des studios de danse, si on travaille avec de la danse, des espaces plus polyvalents, des scènes, tout simplement, des endroits de concert, des endroits des théâtres. Puis sinon, bah, y a le travail du concert en lui-même, quoi, qui là est très particulier. Voilà, en gros, c'est un peu mes 3-4 façons d'être dans un lieu de travail, quoi. C'est vrai que je cours beaucoup depuis une dizaine d'années. C'est une pratique qui est devenue un peu essentielle pour moi. Et c'est un temps que je fais parce qu'il m'apporte beaucoup, tant on va dire sur le plan physique qu'au niveau de ce que ça provoque dans ma tête ou au niveau de mes pensées. C'est-à-dire que c'est un moment où je laisse vraiment complètement mes pensées divergentes, parce que j'ai beaucoup de pensées divergentes en fait, s'exprimer pleinement et se mettre en correspondance éventuellement. Donc c'est vraiment des temps où je suis très inspirée en fait. Et puis c'est un temps aussi où je passe facilement d'une ouverture totale sur l'extérieur à un moment très introspectif, puisque je retourne dans mes pensées. En fait c'est toujours une espèce d'aller-retour qui se fait de façon très naturelle et que j'apprécie beaucoup. Et donc c'est vraiment souvent dans ces temps-là que jaillit des idées, des envies aussi. Je dirais que c'est plutôt à travers cette mise en mouvement que les choses ont lieu. Et sinon, toute situation de vie un peu intense, où il y a pas mal d'émotions, de choses comme ça, en général, je les reçois, mais ça met du temps, tu vois, à se décanter. Mais toute situation est potentiellement inspirante, c'est juste que je sais pas, je peux pas dire « Ah là, je vais être inspirée à ce moment-là. »